Je vais vous parler de comment on fonctionnait jusqu'ici. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont changer dans les mois, années à venir, mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ce passage-là et vous dire aussi que certains éléments que je vais présenter, c'est donc des éléments qui sont issus de l'étude d'impact que j'ai menée il y a 2 ans pendant 1 an en tant que post-doctorante sur la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Donc, on a ce petit recul-là. Également. Donc, pour commencer, comme on nous avait demandé de parler un peu de la genèse et de l'évolution, bon, je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour en parler, parce que je n'étais pas là au départ, mais pour vous dire grosso modo, donc, la préfiguration de la boutique des sciences à Lyon a commencé aux alentours des années 2010, donc vraiment en lien avec la commu, en fait, l'émergence de la commu, de ce projet de grande université cible, voilà, et de l'arrivée aussi de financements européens, et puis le contexte qu'a rappelé Bertrand sur voilà, le soutien de l'Union européenne sur ces dynamiques, sur ces sociétés. Donc on a d'abord eu un projet qui s'appelait Perares, puis Heinrich, puis Inspires. Donc voilà, une succession de gros projets européens qui ont permis d'accompagner la montée en puissance de la boutique des sciences de l'Université de Lyon, en lien donc notamment avec le tutorat. En fait, il y a eu un principe de tutorat, je crois que c'était dans Perares, entre boutique des sciences existantes et puis projets voilà, qui ont permis un peu de formaliser les choses. Ces projets ont aussi permis de financer des postes de chargé de mission qui sont importants pour voilà, formaliser ce genre de projet. Donc, il y a eu un premier projet pilote, puis 8 projets, puis voilà, depuis 2015, on est en gros à un rythme de croisière d'une dizaine de projets par an. Donc, on en a environ 70-80 à ce jour. Donc, bien sûr, je ne vais pas tous vous les présenter. Et donc là, actuellement, donc cette année 2021, on vient d'être intégré donc dans la 10 de Lyon 2 avec donc des pistes de financement et de pérennisation un petit peu différents, mais voilà, qui rejoignent ce qu'on dit depuis ce matin, donc sur la labellisation SAPS, des projets européens, les appels à projets thématiques, donc en se concentrant sur des thématiques particulières. Et puis, les projets spécifiques recherche participative qui sont de plus en plus nombreux. De quelques spécificités lyonnaises historiques, donc, nous, on a toujours été ancrés dans un CCSTI. Donc, à l'Université de Lyon, on était intégrés dans l'équipe Pop Science, qui est donc une équipe voilà, qui organise la fête de la science, enfin, CCSTI classique, quoi, on va dire. Donc, voilà, on a un peu cette identité. C'est vrai qu'auprès des étudiants et des enseignants-chercheurs, on a aussi cet apport. Du coup, on forme beaucoup à la médiation, mais du coup, en rappelant sans cesse que la démarche de recherche participative est différente. On a un lien au territoire qui est assez fort, donc un Loire-Rhône principalement pour nous, donc les 3 départements. Il y a eu un soutien historique de la métropole lyonnaise et puis de la région, anciennement Rhône-Alpes, maintenant Berne-Rhône-Alpes. Et puis, l'importance de l'insertion dans les réseaux, donc à la fois nationaux de boutiques des sciences, européens et puis internationaux, notamment dans le réseau francophone des boutiques des sciences, voilà, où on a toujours été assez présents. Et voilà, c'est des échanges qui nourrissent aussi les pratiques. Une des spécificités à venir qui peut peut-être vous intéresser, donc en lien avec le rattachement à Lyon 2, c'est qu'on va être davantage en lien. Donc là, le projet de Lyon 2, c'est vraiment de mettre en lien cette boutique des sciences avec ce qu'ils ont appelé les pôles de spécialité, qui sont une politique de Lyon 2 depuis quelques années, qui sont donc ces 8 pôles thématiques-là, donc action publique, mémoire patrimoine, genre, travail, humanité numérique, ville, mobilité, médiation, création, vulnérabilité, qui sont des pôles thématiques voilà, qui regroupent de manière interdisciplinaire des chercheurs de différents labos sur des grands sujets phares, qui sont un peu des spécialités de Lyon 2, et puis des chaires, donc la chaire ESS et puis la chaire transition alimentaire, qui sont aussi des chaires thématiques. Voilà, donc ça pour dire que ça resserre un peu, en fait, avec l'Université de Lyon, on était vraiment très interdisciplinaire, totalement plurithématique, on n'avait pas de thématique particulière. Voilà, là, avec Lyon 2, on va sans doute orienter un peu, voilà, en tout cas, voilà, avoir plus des axes thématiques précis. Pour vous dire en gros comment on fonctionne, bon, après ça reprend un peu des choses qui ont déjà été dites, hein, parce que ça reste en plus des sciences, Mais voilà, donc pour nous, la boutique des sciences, c'est vraiment l'accompagnement global de la démarche et du partenariat. C'est proposer la médiation et la formation pour les structures et pour les étudiants. Et puis le financement aussi des projets, parce que du coup, voilà, tout est gratuit pour les structures qui viennent nous solliciter. Il faut juste qu'elles donnent un peu de leur temps, quoi. Voilà, après, on réfléchit évidemment à ce modèle économique dans les années à venir. Est-ce qu'on va rester totalement sur du don aux associations ou pas. Mais voilà, pour l'instant, notre fonctionnement, c'est que les associations ou structures publiques, puisque ça arrive beaucoup qu'on travaille aussi avec des collectivités territoriales, nous posent une question. Donc, on fait un appel à projet chaque année. Ça passe par le comité scientifique, donc qui est pluri-établissement, pluridisciplinaire, qui sélectionne les projets. Avec des enjeux, des critères un peu donc à la fois de faisabilité, d'originalité, l'idée que ce soit principalement des sujets dits orphelins, c'est assez important pour nous. Voilà, on veut que ce soit des sujets qui sont pas traités en fait par ailleurs par la recherche. Et puis la question de l'intérêt général, donc qui est propre aux outils des sciences aussi. Après, on s'interroge. Je pense que j'ai mis un petit point d'interrogation, mais on s'interroge sur le fait de partir aussi parfois de sujets proposés par des études, par des chercheurs, chercheuses ou par des étudiants, étudiantes. Après, ça nous est arrivé ponctuellement et on a remarqué que ça fonctionnait quand même moins bien, comme l'a dit un peu Bertrand tout à l'heure. Donc voilà, c'est des choses dont il faudrait qu'on échange d'ailleurs là-dessus entre BDS. Mais parce qu'en fait, certes, c'est notre identité de partir des questionnements des assos. Mais en fait, on se rend compte que des fois, il y a un décalage par rapport aux sujets qui sont traités ou phares dans les labos. Et du coup, bah, y a une déconnexion et derrière, on critique le fait que les BDS ne soient pas suffisamment recherchés, peut-être parce qu'il y a cette déconnexion. Donc, on réfléchit peut-être à partir des demandes des étudiants. Ou voilà, c'est en réflexion. Donc, ensuite, on aboutit à un sujet de recherche. Donc, en gros, on a une quarantaine de demandes par an. On en choisit une dizaine, principalement pour des raisons économiques et de RH pour accompagner, voilà, parce que tous les projets mériteraient d'être accompagnés, et voilà, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Donc ensuite, on arrive à soit un stage de M2, soit un projet tutoré réalisé par un groupe d'étudiants, soit d'autres formats, donc ça peut être des hackathons, des challenges, bon, en vrai, on n'en a pas beaucoup fait, mais on aimerait développer un petit peu ça. Donc, ce stage-là est vraiment co-encadré par l'ASSO, l'encadrant pédagogique de master. Et puis, souvent, on essaye d'ajouter un encadrant scientifique plus spécialiste du sujet en particulier, surtout si l'encadrant de master n'est pas vraiment au fait du sujet proposé par l'association. Voilà, donc ce trinôme-là est important, plus du coup l'étudiant et la boutique des sciences. Ensuite, on aboutit donc au bout de 6 mois, en principe, à des résultats, ou en tout cas, une forme de résultat. Et puis, la phase de diffusion qui est donc importante, diffusion vers la communauté scientifique et vers la société civile, et avec des suites, parfois, via des projets, des collaborations de recherche, parfois l'embauche de l'étudiant par l'ASSO, des suites en thèse, ou pas. Ça dépend. Alors, parfois, il y a des suites, mais on ne les connaît pas. Enfin, ça, c'est ce qui n'est pas toujours facile dans l'étude d'impact des boutiques des sciences, c'est que voilà, souvent, les gens continuent à travailler ensemble, mais après, ils se passent de nous. Donc, ils enlèvent les petites roulettes de la boutique des sciences et puis, du coup, on n'est plus forcément au courant de ce qui se passe. Le déroulé de l'année et demie d'accompagnement, bon, c'est vraiment assez proche de Lille, donc je ne vous la refais pas en entier. Mais voilà, en gros, pareil, on fonctionne atelier d'émergence de la demande, appel à projet, on sélectionne les projets, on les transforme à la rentrée suivante en offre de stage ou en projet tutoré. Ce qu'on ne retient pas, on essaye toujours de les réorienter vers d'autres choses. Voilà, les 30 qu'on ne choisit pas, ben on essaye toujours de leur donner d'autres solutions, voilà, d'autres guichets. À Lyon, il y a d'autres dispositifs qui ressemblent un peu à la boutique des sciences. Donc, on essaye de se partager un peu les choses comme ça. Il y a ensuite donc, le recrutement des étudiants donc, qui est fait vraiment par nous, chargés de mission, plus l'ASSO. Donc voilà, toujours main dans la main dans les critères, dans le choix des formations, etc. Ensuite, rencontre du trinôme. Comme disait Bertrand, pareil, on a plusieurs réunions de ce trinôme-là pendant l'année. Nous, on fait 3 formations pour les étudiants pendant l'année. Donc, une première sur la problématisation, Souvent, la deuxième, ils viennent avec leurs questions sur la posture de chercheur, les spécificités de la recherche participative, etc. Et puis souvent, on fait la troisième vers mai-juin sur les questions de communication, de vulgarisation scientifique, de restitution des résultats. Donc voilà, on a vraiment cet esprit un peu promo boutique des sciences avec notre dizaine d'étudiants qui viennent tous en général de formations différentes, qui travaillent sur des assos différentes, et ça crée une sorte de communauté d'intérêt à travailler sur les mêmes, avec les mêmes méthodologies en fait, mais avec des approches souvent très différentes. Et ce qui n'est pas évident dans ces formations-là, c'est qu'ils ont un background très différent selon d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'il y a des filières où ils sont beaucoup plus sensibilisés à l'éthique de la recherche, à la posture du chercheur et tout, qui y ont déjà réfléchi, qui ont eu des cours sur l'engagement du chercheur et tout, puis d'autres qui arrivent de filières où ils n'ont jamais réfléchi à ça. Donc, ça fait des formations intéressantes de ce point de vue-là. Nous, pour l'instant, on ne mélange pas les assos dans ces formations-là, mais c'est vrai que enfin, voilà, on aimerait bien s'inspirer aussi de ce que fait Lille là-dessus, d'avoir des ateliers aussi où il y a vraiment du brassage. Mais comme c'est quasiment impossible d'avoir les chercheurs de toute façon dans ce type de format qui prennent toute la journée, on se demande un peu comment arriver à les impliquer plus. Mais voilà, donc ensuite il y a la phase classique terrain, analyse de données, restitution. Et donc on a une attention aussi très particulière à ce qu'une fois que l'étudiant n'est plus là, qu'est-ce que l'asso en fait? Est-ce qu'elle a bien mis les résultats en ligne? Est-ce qu'elle a diffusé elle dans son propre réseau? Qu'est-ce qui a été approprié ou pas? On essaye de garder le lien avec les assos, mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Donc, quelques exemples de projets. Bon, là, j'ai pris le panel 2020, mais juste pour vous montrer la diversité des sujets qu'on peut avoir. Donc là, c'était nos 12 projets 2020. On en avait un notamment sur l'habitat participatif, par exemple, de seniors, avec un groupe de vieilles dames, les Baba Yaga, qui voulaient habiter ensemble et qui a fait travailler une étudiante en philosophie sur la notion d'autonomie. Donc, il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant. En plus, c'était pendant le Covid. Donc, elle a quand même vraiment réussi à faire son terrain et tout. C'était intéressant. Et puis, on a eu un travail de groupe aussi cette année-là avec un diagnostic de la ville de Rieux-la-Pape qui est en périphérie de Lyon, qui se questionnait sur la notion de densification douce et d'étalement urbain, etc. Et donc, c'est eux qui sont venus nous solliciter, donc la ville, pour... Et là, on les a orientés vers un travail de groupe d'étudiants en Sciences Po et aménagement. Il y a eu aussi sur la place de l'enfant, la monnaie locale, plein de sujets, un peu santé aussi, pas mal, transition énergétique, c'est très varié. Un exemple peut-être que je développe un petit peu davantage, c'est un projet qui a été mené donc là, cette année, par contre, qui a pris fin là, avec un collectif d'habitants opposés à l'artificialisation des sols, qui s'appelait le collectif Kikuri. Donc, eux, leur question à l'origine, c'était comment fournir la restauration collective en produits bio locaux, parce qu'ils voulaient, en gros, des arguments pour renforcer leur dossier par rapport à ça, quoi. Et en fait, on a recruté donc une étudiante en urbain aménagement qui a été co-encadrée donc, par une urbaniste et puis un géographe spécialiste du foncier agricole. Et puis en fait, cette équipe-là a décidé de réorienter un peu le sujet en voyant comment ça se passait dans l'asso et sur le territoire. Et elle a plutôt travaillé sur les questions de posture du rôle citoyen dans la préservation de ce foncier agricole. Parce qu'on a estimé que le collectif encore n'était pas assez mûr encore pour porter une proposition de restauration collective, mais que par contre, réfléchir sur quelle était leur place sur le territoire et tout leur rôle, ça pouvait être mieux. Donc ça, quand il y a réorientation du sujet en cours de route, là, nous, médiateurs, on est vraiment super importants pour qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait personne qui soit froissé, quoi. Surtout quand, en plus, la réorientation, c'est « Ah, en fait, on ne va pas regarder là, on va vous regarder vous. » Et voilà, il faut que l'asso soit d'accord, quoi, parce qu'elle s'est engagée quand même dans quelque chose. Ce n'était pas forcément pour ça, mais là, en l'occurrence, ça a été amené vraiment pour en leur expliquant que ça allait aussi leur apporter beaucoup. Et donc, ce sujet-là, il y a eu des suites. L'étudiante a été embauchée dans un labo pour continuer une enquête. On a déposé un projet dans l'appel à projet CO3 dont parlait Raphaël ce matin ensemble. Bon, alors, on a complètement été retoqués, mais au moins, ça nous a permis de faire quelque chose ensemble à cette suite-là. Et donc, on continue à travailler ensemble et on va essayer de continuer à travailler. Et puis, l'association a réorganisé aussi ses façons de faire suite à ça. Et puis, par exemple, donc, sur le site, à chaque restitution de projet, il y a un petit article. Donc, l'avant-scène, c'est une photo, donc une médiation que l'étudiante a faite dans le cadre du Festival Pop Science, qui est un festival de culture scientifique qu'on organisait. Et il y a aussi, donc, à chaque fois, le mémoire de l'étudiante, les pistes de coopération locale qu'elle avait proposées, puis une synthèse du travail qu'elle a fait. Donc, voilà, tout est très accessible pour que ce soit utile au plus de monde possible. En termes de bilan sur la localisation de nos projets, bon, on est principalement en milieu urbain sur la métropole lyonnaise, mais voilà, on essaye d'être un petit peu partout sur le territoire. Là, cette année, on a 5 projets qui sont tous en milieu rural parce que c'était un financement spécifique là-dessus. Donc, on n'est que dans la Loire et dans l'Ain, là, par exemple, cette année. Mais bon, c'est vrai que de manière globale, on est quand même plutôt métropole de Lyon. Je vais vous présenter rapidement l'étude d'impact. Du coup, donc pourquoi on a voulu faire cette étude d'impact en 2019. Donc l'idée, c'était de formaliser un peu les choses pour avoir plus de visibilité, de reconnaissance, et puis comprendre un petit peu, voilà, nos impacts, justement. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment ce qu'on fait pour mieux piloter et accompagner? Donc c'était moi, postdoctorante, qui était en immersion dans le dispositif. J'avais été accompagnée aussi par un cabinet spécialisé dans l'étude d'impact, puisque moi, je viens plutôt des sciences sociales, donc je ne savais pas forcément faire ce genre de choses. Et puis, bien sûr, on a eu une attention pendant ce processus-là à la dimension collaborative et participative de l'enquête. Les assos et les étudiants ont été joints aussi à la démarche d'enquête. Donc, la boutique des sciences, elle a 3 missions principales. Participer au développement territorial en accompagnant les structures citoyennes, donc assos de citoyens, collectivités locales, former les étudiants à une approche différente des liens recherche-société et adapter la recherche en décalant les pratiques de production. Donc, en gros, 3 missions, 3 types de publics, les 3 parties prenantes dont on parle depuis ce matin. Et du coup, qu'on a orienté un peu mes 3 axes d'enquête. Donc, j'ai enquêté les 3 parties prenantes de manière un petit peu différente chacune, puisque chacune ne pouvait pas s'aborder de la même manière. Donc, ma méthodologie, ça avait été de croiser 4 hypothèses d'impact principales avec la caractérisation de chaque projet. Donc, les hypothèses d'impact, c'était qu'on change le rapport à la production des savoirs, qu'on permet de créer de nouveaux savoirs ou de nouveaux outils, qu'on permet une prise de recul, une objectivation et un outillage, et qu'on permet d'améliorer la visibilité des assos ou des sujets des assos. Et ça, on a essayé de le croiser avec la taille, la nature, la situation de l'asso, l'antériorité de sa relation à l'université, puisque comme on disait aussi ce matin, il y a plein d'assos où en fait il y a des chercheurs dedans. Donc, est-ce que ça impacte aussi la finalité du projet? Le niveau d'accompagnement par la BDS, parce que selon les années, on a eu différents modes d'accompagnement, et puis le déroulement du travail en lui-même, et donc comment ça a pu impacter le projet. Donc globalement, bon, je vais pas vous refaire tous les résultats parce qu'on n'a pas le temps, mais là il y a le petit graphique un peu sur les sujets, donc ça vous donne un peu une idée de la répartition des types de sujets. Donc on a eu quelques sujets santé. Plus de sujets environnement, etc. Grosso modo, la satisfaction globale, elle est plutôt présente. Les assos estiment principalement qu'on a apporté une réponse à leurs questions, qu'on a été suffisamment présent, que c'est plutôt positif. Qui nous sollicite, c'est vraiment des profils très variés. On travaille vraiment, un peu comme on peut l'expliquer ce matin, on s'adapte à chaque. Donc, on a des petites assos, des gros assos, des assos qui ont les moyens, des assos qui n'ont pas de moyens, etc. Des structures dans pas mal de secteurs, mais en majorité quand même des structures qui déclarent avoir déjà des liens avec le monde de la recherche. Donc, une des conclusions qu'on s'est données, c'est que il faut accentuer les efforts vers les autres, mais il faut aussi valoriser le dispositif comme permettant de concrétiser et d'approfondir ce lien. Parce qu'en fait, il y a des assos qui certes ont un lien, mais qui n'avaient jamais en fait trouvé de cadre dans lequel formaliser un projet, quoi. Donc, l'impact principal sur les structures, c'est vraiment le changement de rapport à la production des savoirs. C'est-à-dire que dans l'enquête, les résultats les plus forts, c'est vraiment sur les questions portant sur est-ce que ça vous a permis de valoriser les connaissances et savoir-faire qui préexistaient dans votre asso? Est-ce que, selon vous, ça a permis de croiser les savoirs universitaires et les savoirs de terrain? Ils ont la sensation aussi, les structures, d'avoir participé à un travail de recherche. Ça permet aussi de reconsidérer le rôle de la recherche et de l'université dans la société. Par exemple, il y a plus de structures qui estiment que l'université peut être en soutien ou que la recherche est une ressource pour leur action à la fin qu'au début du projet. Et en particulier, on a un fort impact sur les assos qui n'avaient pas de lien antérieur avec le monde de la recherche. Elles estiment davantage que ça a changé leur regard sur le monde de la recherche. Bon, ça paraît logique comme ça, mais voilà, on l'a quantifié. Donc, c'est toujours, c'est toujours bon de l'avoir noir sur blanc. Ce qui est apprécié, c'est de pouvoir prendre le temps d'étudier le sujet, la réflexivité, le fait de découvrir d'autres réseaux, d'être mis en contact, etc. Des impacts que nous, on pensait très importants, mais qui sont en fait plus secondaires dans les résultats, c'est l'amélioration de la visibilité, de la crédibilité de l'action citoyenne. C'est clairement un des impacts d'un travail avec la boutique des sciences, mais c'est un peu plus secondaire. Quand on demande aux structures si ça leur a permis d'élargir et de renouveler leur réseau, de faire connaître davantage leur structure, d'asseoir leur crédibilité auprès de leurs partenaires ou de développer plus d'arguments, elles disent oui, mais bon, c'est quand même pas le principal. Asseoir sa crédibilité auprès des partenaires, c'est quand même un des impacts secondaires, entre guillemets, les plus forts, parce que souvent, les résultats sont réutilisés pour aller parler aux élus, aux bailleurs, etc. Donc, ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est discuté et discutable. Hein. Voilà, on peut débattre sur est-ce que c'est vraiment le rôle de la recherche d'aller épauler les argumentaires des assos. Mais voilà, en tout cas, c'est un des effets. Et puis, un autre impact un peu plus secondaire, c'est de renforcer l'action et les moyens des structures citoyennes. Donc, certes, on est là pour les outiller, ben, comme disait Raphaël aussi ce matin. Moi aussi, le matin, c'est ça que je me dis que je fais. Je suis là pour outiller. Mais en fait, quand on leur demande, elles disent pareil, les assos, elles disent oui, vous nous outillez et puis vous nous permettez surtout de prendre du recul et de prendre du recul sur notre contexte d'action. Parce qu'en fait, s'outiller, ça reste quand même elles les mieux placées pour savoir ce dont elles ont besoin. Donc, ce qu'on leur apporte souvent, c'est plus le côté critique. Donc, ça, c'est pareil. Là, le médiateur est important. C'est que souvent, le travail de recherche, il va être critique. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent nous chercher, mais il faut quand même les préparer au potentiel choc que ça peut faire, de se faire critiquer son travail par des chercheurs ou des étudiants qui arrivent un peu de l'extérieur. Sur l'impact sur les étudiants, donc ce qui est ressorti, c'est principalement donc, la pertinence pédagogique de la BDS pour former à des liens reconfigurés entre savoirs, un rapport renouvelé entre université et société civile, et puis le rôle central de l'accompagnement et de la formation, qui est vraiment très apprécié par les étudiants. C'est vrai, les stages boutique des sciences, c'est un peu des stages, les étudiants, ils sont comme des coqs en pâte, quoi. Ils sont triplement encadrés. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop, hein, parce que c'est aussi plus complexe, mais c'est vrai que on est vraiment là pour les accompagner, notamment nous chargés de projet, pour les accompagner de A à Z, de les écouter quand ils ont des questionnements, etc. Donc ça, ils apprécient beaucoup. Et puis, on a remarqué que ça avait à la fois un effet levier sur l'engagement des étudiants, parce que ça leur fait découvrir le monde associatif. Parfois, ils deviennent bénévoles, ou même on a une étudiante qui est devenue présidente de l'asso dans laquelle elle avait fait son stage et tout. Ça a un effet levier, mais ça a aussi un fort effet de réalité. C'est-à-dire que souvent, c'est aussi un gros choc pour les étudiants qui se disent « Ah, je vais aller bosser dans le monde associatif, ça va être super, je vais être utile à la société. » Et en fait, ils se rendent compte de la réalité crue du monde associatif et qu'en fait… ils sont aussi soumis à des questions de rentabilité économique ou de choses comme ça, où ils utilisent un certain vocabulaire, où il y a certains problèmes interpersonnels qui existent partout et tout. Et du coup, ça peut aussi avoir un effet, faut aussi accompagner le choc de ce côté-là. On estime que c'est une acculturation nécessaire pour des liens à plus long terme entre ces deux mondes-là. Je ne vous détaille pas tous les verbatims, mais ça, c'est tout disponible sur le site. De toute façon, il y a l'étude complète. Et puis, les impacts principaux sur le monde de la recherche. C'est d'abord côté structure, on permet une certaine autonomisation des acteurs sociaux à travers la contribution, la compréhension d'un processus scientifique. Ils estiment participer à un travail de recherche, donc c'est déjà, c'est déjà un gros point positif. Par contre, côté chercheurs, ils ne considèrent pas forcément que ce sont des travaux de recherche. Côté chercheurs, ce qui est valorisé, c'est vraiment l'intérêt pédagogique très fort, le fait que ça permet aux étudiants d'expérimenter une posture épistémologique différente. Par contre, ils ne se demandent pas forcément ce que ça leur a fait à eux, à leur pratique de recherche. C'est ce qui est plus ceux qui sont les plus L'OCAS, sur ce côté-là, c'est les enseignants-chercheurs qui sont peut-être les plus éloignés du monde associatif. Par exemple, j'ai souvenir de témoignages de profs en école d'ingé qui sont très habitués à travailler avec les entreprises, qui ont cette culture de la science impliquée, mais voilà, qui découvraient un peu comment c'était de travailler avec le monde associatif et qui ont beaucoup apprécié de pouvoir tester ça. Voilà, après, il y a des limites, hein, une nécessité, donc, comme je disais tout à l'heure, de coller davantage à l'agenda et au sujet de recherche en cours. Le fait de mieux valoriser la dimension recherche des travaux réalisés et puis le manque de reconnaissance par les pairs et l'institution. Et puis côté étudiant, le côté bon, l'impact recherche, c'est voilà, vraiment ce premier lien avec des méthodologies, des postures différentes de faire de la recherche. Et puis c'est un cadre intéressant en fait d'expérimentation pour eux et elles. Non, voilà. Pas grand-chose, mais bon, c'est pour vous donner envie d'aller voir le document. voilà, c'est un peu un document qui reprend les résultats de l'étude d'impact avec les impacts. Donc là, je vous ai fait les impacts par partie prenante, mais on a aussi fait un peu les impacts transversaux, donc qui sont principalement autonomiser les acteurs participants, orienter la recherche vers les besoins et les valeurs de la société, et puis repenser la façon de faire la recherche et de produire des savoirs. Et donc tout ça pour essayer d'avoir un dispositif d'innovation sociale par la recherche participative. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette étude, ce qu'elle nous a permis d'affirmer, c'est bon, notre pertinence sociale, mais notre pertinence sociale comme porte d'entrée. C'est-à-dire que voilà, on arrête de croire qu'on change totalement le monde, même si on aimerait bien. Mais voilà, on est conscient qu'on est cette première étape, peut-être ce maillon, ce chaînon manquant. Voilà, pour commencer à reconfigurer les liens entre savoirs. Et ça fonctionne quand même sur cette notion de reconfiguration des liens entre savoirs, tant du côté étudiant que chercheur que asso. On considère que, OK, on met plus un savoir au-dessus de l'autre. On estime que, OK, il y a des savoirs d'expérience, les savoirs universitaires, et que si on les croise, ça fait des choses différentes. Et puis le rôle central de l'accompagnement, ça c'est clair, mais bon, on le dit aussi un peu depuis ce matin, ça ressort beaucoup des témoignages, voilà, les trois parties prenantes apprécient d'être accompagnées et de ne pas être juste jetées à devoir travailler ensemble toutes les trois. Donc après, qu'est-ce que l'accompagnement par la boutique des sciences? Ben, la définition, elle varie un peu selon les parties prenantes. En fait, on n'est pas perçu comme médiateur, médiatrice de la même façon selon les parties prenantes, mais on a surtout quand même un rôle de remédiation et voilà, d'aide en amont et en aval, d'être présent sur toute la durée. Et puis, on va pas se mentir, la prise en charge administrative et financière qui fait toujours plaisir à tout le monde quand c'est pas à soi de s'en occuper. Et ça, voilà, ça permet vraiment, enfin, c'est vraiment pas à négliger. Oui, sur les limites, bon, bah, oui, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit, mais voilà, on s'est questionné sur comment impliquer davantage les chercheurs, chercheuses et labos, parce qu'il y a une frustration, côté asso notamment, de ne pas les rencontrer davantage. Et puis la question d'une intensification de l'accompagnement aussi sur certains projets, on en a une dizaine par an, mais du coup, voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas tous les emmener ensuite jusqu'au dépôt de projet de recherche ou jusqu'à la thèse ou quoi. Donc, voilà, on est en train de se questionner là-dessus en ce moment. Bon, différentes pistes de réflexion aussi suite à cette étude, c'est sur l'ambition transformatrice de ce type de dispositif. Voilà, il faut rester modeste et se dire aussi que parfois on répond juste à une demande sociale. Et parfois même juste un besoin d'expertise, même si voilà, on rappelle à toutes les étapes du projet qu'on n'est pas là pour répondre et juste être un bureau d'études et répondre à un besoin d'expertise. On veut vraiment co-construire une réponse et une question et tout. Mais en fait, les assos, elles ont aussi ce besoin d'expertise. Et en fait, elles n'ont pas d'autre lieu forcément pour les signifier, quoi. Donc, si nous, en tant que boutique des sciences, on les refuse toutes ces questions-là, au bout d'un moment, elles se retrouvent aussi orphelines, quoi. Donc, voilà. Faut aussi être conscient de ça. Bon, la portée émancipatrice, elle est quand même réelle et sur le long terme, voilà, ça rejoint aussi les buts de l'éducation populaire. Mais le fait de se rencontrer, de toute façon, ça augmente l'autonomie des acteurs sociaux. Et puis la question de la place de la médiation, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi les questionnements qu'il y a dans les sciences participatives, donc qui sont, comme disait Bertrand, plus les sciences, voilà, le fait de participer juste à la collecte, où il y a aussi des médiateurs, des médiatrices qui ont un rôle. Mais voilà, ça, c'est un travail qui a été fait par Marie-France Mifune, qui est chercheure qui a travaillé sur la médiation scientifique. En fait, c'est intéressant parce que dans la recherche participative, ce rôle du médiateur, il est encore maximisé, quoi. Il a tous ces rôles-là, donc d'animation, de gestion de projet, d'enrichir ses connaissances, de concevoir la médiation. Mais voilà, on pourrait rajouter encore des branches par rapport à la remédiation, au lien, à l'acculturation réciproque des acteurs, etc. Donc voilà, ça vient aussi, les boutiques des sciences viennent aussi alimenter la réflexion sur la place de la médiation dans la recherche de manière générale. Je vous ai mis là bon, un peu les suites qu'on a eues aussi à cette étude d'impact, parce que bon, l'étude d'impact, elle était certes pour nous, mais elle était aussi pour voilà, partager le plus possible et alimenter aussi les réflexions sur ce type de dispositif. Ça nous a permis aussi d'élaborer des outils internes un petit peu différents, de modifier nos formations, de communiquer, etc. Je vous ai mis également là quelques autres acteurs de la recherche participative, mais parce que voilà, vous êtes un peu en construction, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous. Bon, des acteurs dont on a parlé depuis ce matin, hein, de toute façon, mais notamment sur Citoyenne, le réseau Alice, le réseau international et francophone des boutiques des sciences, et puis des projets qui sont un peu parallèles, enfin, que moi je trouve inspirants, qui sont par exemple les projets de coopératives de recherche. Donc, on a par exemple l'Atelier des jours à venir, qui est vraiment un projet que moi je trouve vraiment passionnant, voilà, qui fait de la recherche participative, mais de façon coopérative. Donc, eux, ils sont liés à aucune université ou dispositif officiel. Mais voilà, ils co-construisent avec notamment des collectivités territoriales des projets de recherche. Et je trouve qu'ils sont assez inspirants, voilà, si vous cherchez des pistes. Et puis, bon, voilà, quelques types de financement, mais dont on a parlé aussi depuis ce matin. Et puis, pour conclure, juste vous rappeler que donc à la boutique des sciences de Lyon, on a fait des séminaires tous les mois depuis donc sur les deux dernières années. Tous les mois, des séminaires. Donc, l'idée, c'était vraiment des séminaires recherche participative pour inviter des gens qui ont fait de la recherche participative à échanger sur leur recherche et vraiment à parler méthodologie, c'est-à-dire comment vous avez fait concrètement, comment vous avez fait quand ça ne fonctionnait pas, comment vous avez eu de la reconnaissance ou pas après, etc. Donc ça, ce n'est pas des projets à nous, c'est des projets qu'on a invités à venir parler, enfin certains projets, c'est des projets à nous, mais qu'on a invités à venir partager leur expérience. Et donc, comme ce projet de séminaire s'est tombé aussi en plein Covid, on a décidé de les transformer en podcast. Et donc, ils sont tous réécoutables sur le site de la BDS de Lyon. Ils sont tous en podcast. Donc, c'est souvent des séances d'une heure et demie. On a enregistré l'audio pour… Donc, il y a notamment des expériences québécoises. Les Québécois sont très forts en recherche participative. Des expériences africaines aussi. Des questions entre agronomes, agriculteurs. Enfin, voilà, on a essayé d'élargir un petit peu, mais d'être toujours dans le questionnement de c'est quoi qui fait l'identité de ces recherches participatives, quel que soit le sujet et la discipline. On est assez contents de cette série de séminaires, mais ce qui nous a un petit peu déçus, c'est le côté… on a eu peu de chercheurs qui sont venus écouter quand ce n'était pas leur sujet principal. Enfin, on aurait aimé que ça stimule peut-être plus les échanges sur vraiment la dimension méthodologique. Et qu'un sociologue soit capable de venir écouter un neuroscientifique pour écouter comment il a fait sa recherche participative, parce qu'en fait, il va être confronté aux mêmes questionnements, aux mêmes problématiques concrètes, mais ça s'est peu fait. Donc voilà, je laisse en suspens ce que ça peut vouloir dire. Et voilà, merci. Donc n'hésitez pas, voilà, sur le site, on a pas mal de ressources aussi, biblio. Des articles sur la recherche participative, tout ça. Il y a tous nos projets passés.
Merci beaucoup, Hélène.